Alors, je suis vraiment très heureux d'accueillir notre prochaine invitée parce que c'est toujours fascinant d'apprendre sur tout ce qui touche les vaccins. On les attend depuis le tout début de la pandémie. On sait que ça va très bien dans plusieurs cas avec des candidats vaccins. Et en plus de ça, même si on avait planifié ça depuis quelques jours, ben il y a de l'actualité là, qui déferle concernant les vaccins. Alors, sans plus tarder, accueillons notre invitée. Elle est directrice des affaires scientifiques et médicales de Medicago, Mme Nathalie Charland. Mme Charland, bonsoir.
Bonsoir, M. Langlois.
Vous entrez dans une phase, bien, vous êtes dans une phase intéressante, je pense, depuis le tout début, depuis que vous avez décidé de vous lancer. Mais là, quand on apprend cet après-midi qu'environ 65 personnes de la région de Québec qui pourraient être vaccinées à partir de la semaine prochaine et donc qui serviront en quelque sorte de volontaires pour l'étude du vaccin, c'est signe que ça avance. Est-ce que ça avance à votre goût, Mme Charland?
C'est sûr que ça va jamais assez vite à notre goût parce qu'on voudrait tellement tous avoir un vaccin demain matin. Mais premièrement, je veux remercier les volontaires qui veulent bien participer à notre étude. C'est tellement important pour pouvoir développer ce vaccin-là. On a besoin de volontaires comme ces gens-là. On a différents sites à travers le Québec et à travers le Canada. Et on espère vraiment que les gens vont être intéressés à se joindre à nos études cliniques. Donc, on est vraiment très, très heureux.
Est-il difficile de les trouver? Vous en avez besoin de 65. Est-ce que vous les avez déjà ou vous êtes en démarche pour les trouver, ces volontaires?
En fait, on a besoin de plus de 600 à travers le pays. Donc, on parle de 612 participants parce que rendu en phase 2, comme on débute actuellement, on a besoin de plus de participants qu'en phase 1, justement pour aller étudier encore mieux le candidat vaccin, s'assurer qu'on a une acuité, s'assurer que la réponse immunitaire qu'on a observée en phase 1 se répète en phase 2. Et surtout, cette phase 2-là est très importante parce que là, on ajoute des personnes plus âgées. Donc, la phase 1, c'est des gens entre 18 et 55 ans, mais là, on va vraiment chez des gens au-delà de 55 ans en plus. Donc, on continue avec les 18-55, mais là, on va aller dans des groupes de 55 à 65 ans, 65 ans, 74, et on vise même 75 ans et plus parce qu'on le sait que les personnes les plus âgées sont plus à risque de développer des formes sévères de la COVID-19. Donc, on est vraiment très intéressé d'étudier le type de réponse immunitaire contre notre candidat vaccin en espérant que ça continue d'aller aussi bien que qu'est-ce qu'on a observé pendant la phase 1.
Et si ça va aussi bien que vous êtes rendu là, donc c'est parce que ça a fonctionné, mais vous disiez tout à l'heure que vous aimeriez ça, que ça aille plus vite. Quel est où rencontrez-vous les plus gros obstacles, le plus haut niveau de difficulté pour faire avancer vos recherches? La fabrication du vaccin, bien sûr.
Ben, en fait, c'est pas nécessairement, bon, c'est sûr qu'au niveau de la fabrication, faut le faire. Donc, il y a une limite physique à faire. Pour les essais cliniques, c'est sûr qu'au niveau recrutement, c'est ce qui peut ralentir ou accélérer le développement d'un produit parce que le plus vite qu'on recrute les gens, le mieux. Mais il y a certaines parties de la recherche qu'on ne peut pas accélérer parce que c'est simplement de la biologie. Donc, nous, on doit donner 2 doses de notre candidat vaccin à 3 semaines d'intervalle. Donc, entre ces 2 doses-là, il faut laisser le temps à la réponse immunitaire de se développer. Puis après, il faut aller chercher des échantillons sanguins, faire analyser les taux d'anticorps. Bon, tout ça, on a différentes études à faire par la suite. Donc, il y a du temps qu'on ne peut pas compresser parce qu'il faut laisser faire la biologie. Mais c'est quand même extrêmement rapide la façon dont on développe le produit. Et puis, tout ça en s'assurant que tout le monde est en sécurité puis qu'il n'y a pas de risque associé au développement du produit.
Dans le meilleur des mondes, Mme Charland de Medicago, là, est-ce que vous visez un mois de l'année 2021-2022 où ça pourrait où le vaccin de Medicago pourrait devenir disponible après que son efficacité qu'il soit prouvée puis qu'il y ait l'approbation? Avez-vous une date en tête?
Mais nous, bon, on est dans la partie phase 2-3 qu'on appelle, donc on compresse les deux phases. Habituellement, on fait la phase 2, on soumet les résultats à Santé Canada. Ensuite, ils nous donnent l'autorisation de passer à la phase 3. Nous, on combine les deux. Donc, Santé Canada va analyser nos résultats de phase 2 au fur et à mesure qu'ils vont sortir pour idéalement débuter la partie phase 3 d'ici la fin de l'année ou au tout début de l'an prochain parce que c'est vraiment la phase qui nous intéresse. C'est dans cette phase-là qu'on va être capable de déterminer si notre candidat vaccin est protecteur ou non. Ensuite, la vitesse à laquelle on va pouvoir distribuer ce vaccin-là, c'est premièrement, il va falloir tester le candidat vaccin dans des régions du monde où le virus circule, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Donc, on peut pas aller en Australie, par exemple, où le virus ne circule pas beaucoup, alors que malheureusement pour nous, mais peut-être heureusement pour le développement du vaccin, en Amérique du Nord, ça circule beaucoup présentement. Donc, plus le virus circule, plus vite on peut obtenir les résultats d'efficacité. Donc, on espère, là, puis en plus, là, on passe à un recrutement beaucoup plus vaste. On parle de 30 000 personnes à travers le monde. Donc, probablement l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, peut-être certains pays d'Europe. Donc, il faut les recruter, ces gens-là. Et je ramène encore la biologie, donc le temps d'immuniser les gens deux fois et d'attendre que la réponse immune se développe et d'attendre ensuite les résultats de protection. Donc, on parle quand même de quelques mois encore, mais aussitôt que les résultats vont être disponibles, on va les soumettre à Santé Canada et on vise de pouvoir distribuer le vaccin sous toute réserve de l'autorisation, évidemment, probablement au milieu de l'an prochain. Donc, on ne parle pas de 2022, là, on parle vraiment de 2021. Donc, pour nous, c'est extrêmement rapide d'avoir développé un vaccin en un an et demi. Bon, c'est sûr qu'on a compté sur une plateforme et de l'expérience de 20 ans. Mais on a quand même poussé la machine et on espère être capable de livrer les premières doses là, au milieu 2021.
Quelle quantité de vaccins pourriez-vous produire pour 2021 et donc pour le monde entier? Dans quelle proportion pour le Québec et le Canada?
C'est sûr que nous, on a déjà un contrat de réserve de doses avec le gouvernement canadien. Donc, ils ont réservé jusqu'à 76 millions de doses. On espère être capable d'en faire entre 80 millions et 100 millions d'ici la fin de l'an prochain. Doubler ça pour 2022. Et puis, on est en train de construire une usine de production à Québec présentement, donc qui va être beaucoup plus grande que nos installations actuelles. Et on espère être capable éventuellement de produire 500 millions à 1 milliard de doses, mais on parle plus de 2023-2024. Mais on parle quand même entre 80 et 100 millions d'ici la fin de l'an prochain.
Pensez-vous que des vaccins contre la COVID, là, c'est là pour rester?
C'est une très bonne question. Si on s'est fié au premier épisode de SRAS en 2003, donc le premier coronavirus qui est apparu, qui a causé une grosse peur, surtout au Canada et en Asie, mais qui est comme disparu par lui-même, c'est disparu dans la nature. Celui-là, c'est un autre type de coronavirus. Il y a beaucoup d'espoir qui pensent qu'il pourrait devenir saisonnier un peu comme l'influenza. Donc, je pense que...
On n'a pas la réponse encore, c'est ça que je comprends.
C'est beaucoup trop tôt. Là, ça fait même pas un an que le virus a été identifié. Donc, il faut laisser le temps à l'épidémiologie, les études épidémiologiques de faire leur recherche. Mais tant qu'il n'y aura pas de vaccin, puis on voit qu'il y a l'immunité naturelle, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont infectés. Malgré que ça a l'air des gros chiffres, là, il n'y en a pas tant que ça qui ont été infectés avec le virus. Donc, c'est difficile pour nous de savoir si ça va disparaître, si le virus va disparaître de lui-même ou il va devenir ce qu'on appelle endémique, un peu comme l'influenza, puis peut-être qu'on va avoir des saisons, puis peut-être qu'on devra se faire vacciner plus souvent. Est-ce que ça va être à toutes les années? Ça va dépendre de l'efficacité des vaccins. Est-ce que ça va être des rappels à toutes les 5 ans, comme par exemple, le vaccin contre le tétanos? On est vraiment en train de suivre ça, puis toutes les compagnies font différents scénarios pour être capables de répondre à différents scénarios, justement, selon l'évolution de l'épidémiologie de la maladie.
Une petite question par rapport à la comparaison des autres vaccins sur lesquels on a appris quelques éléments d'information. Est-ce que vous, c'est une ou deux injections, parce qu'il y a une problématique de préservation des températures extrêmes sous zéro?
La majorité des vaccins sont à 2 injections, incluant le nôtre, sous toute réserve. Si jamais on est capable de démontrer qu'on protège après une dose, ce serait fantastique. Mais comme les gens sont naïfs côté immunitaire, donc personne n'a jamais vraiment vu ce virus-là, on a besoin d'avoir vraiment un boost, donc une augmentation de la réponse immunitaire, non seulement pour avoir une meilleure protection, mais aussi probablement pour une meilleure durée de la protection. Donc, la deuxième dose risque d'être nécessaire. Même il y a certaines compagnies qui pensaient faire un vaccin à une dose, qui ont commencé à modifier leurs essais cliniques pour ajouter une deuxième dose selon les résultats qu'ils ont obtenus dans leurs premières analyses. Mais donc, je pense que la majorité des plateformes sont en ligne pour développer des vaccins à deux doses. Notre vaccin, nous, c'est un vaccin qu'on appelle la particule pseudo-virale. Donc, c'est quelque chose qui est assez standard, qui est utilisé, entre autres, pour les vaccins contre le VPH, contre l'hépatite B, puis c'est des vaccins qui se conservent au frigo. Donc, entre 2 et 8 degrés Celsius. Donc, c'est un côté distribution et conservation, c'est
un avantage.
Quelque chose d'assez standard, oui.
Très certainement un avantage. Moi, un élément d'information que j'avais peut-être pas saisi, et je vais vous demander de me l'expliquer, Mme Charland, directrice des affaires scientifiques et médicales de Medicago. Donc, on apprend, là, en apprenant, d'ailleurs, on va s'entretenir avec le patron de Moderna demain en Amérique du Nord, mais on apprend que le vaccin n'empêcherait probablement pas d'attraper la COVID, mais diminuerait seulement les risques de développer des symptômes graves de la maladie. Et donc, si cela est vrai, une personne vaccinée pourrait toujours transmettre le virus. Donc, est-ce que ce qui semble être une réussite, qu'on aboutisse vers des vaccins qui vont obtenir approbation comme Pfizer, Moderna, AstraZeneca et vous, est-ce qu'on va vraiment, avec ces vaccins-là, pouvoir recommencer à vivre normalement, entre guillemets, en société ou pas tant que ça?
C'est une très bonne question. Donc, je peux pas commenter les résultats des autres compagnies parce que personne ne les a vus. Il y a rien qui a été publié à part des communiqués de presse et donc les détails au niveau de ce qu'on appelle l'unité stérile, donc qui éliminerait totalement les virus dans un individu. Je peux pas commenter, j'ai pas vu les résultats, mais je suis d'accord avec vous, c'est ce qui semble ressortir des différents commentaires dont on a entendu parler ces derniers temps.
Si on parle du vôtre, Mme Charland, est-ce que vous visez un vaccin qui est plus efficace sur le vôtre? Je parle pas des autres, mais le vôtre, que Medicago?
Ben, le nôtre, c'est ça. Idéalement, un vaccin efficace à 100%, ce serait non seulement de protéger la personne pour développer l'empêcher de développer des symptômes de la maladie, mais aussi de la transmettre cette maladie-là. C'est le rêve de tout technologiste qui développe des vaccins, de développer ce genre de vaccin-là. À ce moment, je ne peux pas vous dire. On a des tests chez les animaux, on a fait des tests chez les macaques où on a vu qu'il y avait une réduction significative du nombre de virus au niveau pulmonaire. Est-ce que ça va être la même chose qui va se reproduire chez les humains? Ça va vraiment être la prochaine étape de la phase 3 qui va nous permettre de dire ça. D'un autre côté, avoir un vaccin qui diminue les symptômes, ça libère des lits d'hôpitaux.
Il y a du bon, c'est sûr qu'il y a du bon là-dedans.
Oui, il y a du bon, ça évite la... Puis en diminuant la quantité de virus que la personne peut transmettre, ça limite aussi les risques d'infection ou si l'infection va se développer, elle va être beaucoup moindre. Donc, c'est sûr que, comme je disais, l'idéal, ce serait zéro virus après le vaccin. Est-ce qu'on va atteindre ce niveau-là? Seul l'avenir va nous le dire.
C'est très, très intriguant, en effet. Je faisais part d'une dépêche en provenance de l'AFP qui a été publiée en début de journée. Juste un son de cloche, si vous avez quelque chose, sinon on passe à autre chose rapidement. Mais Interpol, donc, qui a lancé un message d'avertissement à 194 pays membres, appelé à se préparer contre des actions du crime organisé centrées sur les vaccins contre le coronavirus. On s'attend à ce que la pandémie là donne lieu à une activité criminelle prédatrice et opportuniste sans précédent. Et on évoque avoir constaté la promotion, la vente et l'administration de faux vaccins contre le coronavirus. Est-ce qu'un fabricant de vaccins, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes soucieux? Ça, c'est les autorités qui gèrent ça, mais vous, est-ce que ça vous préoccupe?
C'est sûr que tout fabricant de vaccins, surtout en temps de pandémie, il y a toujours des risques. On a entendu dans d'autres pays des convois de vaccins qui ont été détournés pour d'autres maladies. Justement pour faire du marché noir de vaccins. Justement, dans la presse, en fin de semaine, je lisais l'article qui parlait d'un vol de vaccins contre la polio dans les années 50 au Québec. Donc oui, c'est possible, ça arrive. C'est sûr que nous, on a toujours la sécurité. C'est pas seulement au niveau des volontaires ou des patients qui vont utiliser notre vaccin, mais vraiment au niveau de la production, on prend ça à cœur. Mais c'est sûr que malheureusement, il peut y avoir des risques à différents niveaux, c'est sûr.
En effet. Une dernière question, puis une information. Les gens me demandent comment être volontaire pour le vaccin. Donc, vous allez peut-être trouver quelques volontaires ce soir à la suite de cette entrevue-là. Mais vous vous souvenez, Mme Charlin, on s'est parlé dans la première vague. Et à ce moment-là, avant même que les recherches ne soient entreprises, il était beaucoup question d'une collaboration mondiale de la communauté scientifique. Or, on a vu des vaccins, des candidats vaccins poindre à l'horizon. Je les ai nommés tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu collaboration? Est-ce qu'il y a eu échange d'informations ou c'est tous en vase clos, de façon très secrète, que vous développez tous vos candidats vaccins?
Non, mais la collaboration est vraiment extraordinaire. Bon, nous, en plus, on a la chance de collaborer avec GlaxoSmithKline, donc qui fournit un ingrédient à notre vaccin. Donc, il y a vraiment une collaboration chez Medicago déjà au départ. Les résultats qui sont annoncés ces jours-ci, c'est vraiment aussi extraordinaire dans le sens que c'est pas nécessairement... C'est pas dans la normalité des choses d'avoir des détails aussi précis sur des résultats d'essais cliniques, des compagnies qui publient leurs protocoles de recherche. Habituellement, c'est tout se fait en vase clos, chacun de son côté. Maintenant, il y a des gens qui voient des résultats dans leurs essais cliniques, qui contactent l'OMS, qui là, l'OMS appelle une réunion de tous les producteurs et ils partagent les résultats pour que les autres compagnies ajustent leurs essais cliniques en fonction des résultats qui ont été obtenus avec d'autres vaccins. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voyait, mais vraiment pas avant la pandémie. Donc, oui, il y a vraiment une collaboration et c'est assez extraordinaire.
Et en quelques secondes, en terminant, Mme Charlin, les gens qui veulent être volontaires, est-ce qu'ils vont tout simplement sur votre site de Medicago, site Internet?
Nous, on travaille avec Syneos Health, donc ils peuvent toujours contacter Syneos Health. Sinon, on a VX Recherche à Québec, à Joliette. Il y a aussi une compagnie QET Recherche à Sherbrooke qui travaille avec nous. On a aussi Mana Recherche à Mirabel. Donc, on a vraiment différents sites, mais sinon, ça peut passer par Syneos pour avoir plus d'informations.
Madame Charlin, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré et c'est très, très apprécié d'en apprendre davantage. Bonne chance pour la suite de vos recherches, la phase de la recherche de volontaires. On espère que ça va bien aller jusqu'à la fin du processus. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.